Actu SF, les podcasts.
Alors on va pouvoir attaquer cette conférence. Donc on poursuit sur la ville, parce qu'avant que tu arrives, on était sur la ville dans les jeux vidéo et la manière de les représenter. On va poursuivre donc avec Justine Breton, qui est maître de conférence en littérature médiévale à l'université de Reims. C'est aussi une ville, il y aurait plein de choses à dire. En plus, on l'a détruit, on l'a reconstruit.
Tout à fait. Mais elle est une très belle cathédrale.
Mais ce n'est pas le sujet dont tu vas nous parler aujourd'hui.
Non, je peux, si ça vous fait plaisir. Mais...
Et tu vas nous parler donc des séries, de la ville dans les séries. Toi, tu connais bien tous les sujets de la représentation du Moyen-Âge, de ce qu'on appelle la réception du Moyen-Âge pour les universitaires, son médiévalisme, dans un terme qui se répand, puisque tu as fait ta thèse sur le cirque arthurien et la représentation de la puissance. Eh bien, tu as prolongé avec plein d'autres représentations. Vous l'avez peut-être lu sans le savoir, hein, si vous avez...
Je suis partout.
Si vous avez lu les livres sur Camelot, Game of Thrones, ben, vous avez peut-être lu celui dans lequel Justine a écrit avec d'autres comparses que vous croiserez aussi aux Imaginales et aux Polissoirs Imaginaires. Et je n'en dis pas plus et je te laisse vous faire découvrir ce beau sujet, Justine.
Merci beaucoup.
Ça va au niveau du son? Vous faites des grands cris d'horreur quand vous ne m'entendez plus ou quand vous m'entendez trop. Merci beaucoup, Vianney, pour la présentation. Merci pour l'invitation. Merci à vous toutes et tous d'être présents dans cette belle journée ensoleillée. L'idée, c'est effectivement de continuer à parler des villes pour coller à la thématique des imaginales, de cette année. Alors, je vous avoue que la ville, tout ce qui est urbain, c'est pas trop mon domaine, a priori, mais je me suis dit, je travaille sur les séries qui parlent du Moyen-Âge, qu'on appelle les séries médiévalistes. On va coller, on va parler des villes dans les séries. Ça partait d'un bon sentiment. En fait, je me suis appuyée sur... Je fais comme chez moi, hein, je me déplace. Je me suis appuyée sur les travaux que j'ai menés pour un livre qui est sorti en février, qui s'appelle « Un Moyen-Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées », parce que vous remarquerez que je ne sais pas faire des titres courts, donc j'ai forcément des trucs à rallonge. Et l'idée dans ce livre, c'était de travailler sur le plus possible de séries télé qui mettent en scène le Moyen-Âge. Donc je suis partie de 1949. Alors pourquoi 1949? Tout simplement parce qu'avant, on n'a pas conservé grand-chose. On n'a pas beaucoup de séries télé avant 1949. Et déjà en 1949, j'ai un peu triché parce que c'est ce qu'on appelle un serial, c'est-à-dire des épisodes courts qui étaient diffusés au cinéma avant les longs métrages. Mais je l'ai compté comme une série télévisée. Et le corpus que j'ai étudié va jusqu'en décembre 2022. Pourquoi décembre 2022? Parce que le livre sortait en février, donc il fallait bien que je termine au bout d'un moment. Et je voulais aller le plus loin possible parce qu'en 2022, on a eu plein de séries télé qui mettent en scène le Moyen-Âge, qui sont sorties jusqu'en décembre avec la série Willow sur Disney+. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. J'espère que vous n'êtes pas trop attachés, hein, parce qu'ils n'ont fait qu'une saison et il n'y en aura pas de deuxième. Donc voilà. Et il y a eu aussi une série dérivée de l'univers du sorceleur qui s'appelle The Witcher, l'héritage du sang, sur Netflix. Donc bref, gros corpus avec plus de 80 séries. Je me suis appuyée sur ça pour pouvoir voir un petit peu comment on représentait les villes dans toutes ces séries. Alors, je ne vais pas parler des 80 séries là, parce qu'on n'a pas tant, clairement, et que vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas tant de villes que ça dans toutes ces séries. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas tant de villes que ça, c'est parce qu'en fait, on va avoir une grande différence de traitement selon, alors pas tant selon l'année des séries, pas tant selon où ça a été produit ou des choses comme ça, mais plus en fonction du format des épisodes des séries. Je vous explique. Le type d'épisode, en fait, fait varier la représentation des séries. On va avoir plus de villes, plus de cités médiévales, sachant que quand on a des villes, le plus souvent, en fait, on va se limiter au château, c'est à peu près tout. Mais pour voir vraiment la ville, on va en avoir un petit peu plus, plus souvent et un peu plus longtemps, dans ce qu'on appelle les séries formulaires. Est-ce que ce terme barbare vous dit quelque chose?
Non.
C'est normal. À part à peu près 4 spécialistes en France, sinon personne ne parle de séries formulaires. Mais je suis sûre que vous connaissez le concept, une série formulaire, c'est une série où les épisodes sont construits sur une formule, comme une formule magique, c'est-à-dire on va appliquer toujours le même schéma. C'est typiquement ce qu'on a dans Columbo, par exemple. Alors, qui n'a rien de médiéval, hein, Columbo, on est d'accord sur ça. Je suis sûre qu'il porterait très bien la côte de maille, hein, mais c'est pas l'ambiance. Dans Columbo, vous pouvez tomber sur un épisode au hasard, et vous allez pouvoir comprendre l'épisode en le regardant d'un bout à l'autre. Bon, l'avantage en plus de Columbo, c'est qu'on connaît le meurtrier dès le début, donc ça fait gagner du temps. Mais ça veut dire que, voilà, on a la même formule. Vous pouvez regarder un épisode, passer 5 saisons et regarder un nouvel épisode, vous comprendrez quand même ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les séries formulaires. Donc les épisodes sont vraiment autonomes. Alors, c'est des épisodes qui ne sont pas forcément courts en eux-mêmes, hein, ça peut être des épisodes de 40-50 minutes. Mais comme l'intrigue est bouclée sur un seul épisode, ça laisse en fait peu de temps aux personnages pour se déplacer. Donc on va vraiment, généralement, avoir un seul espace. Et quand on est dans une série qui parle du Moyen-Âge, cet espace, ça va être la ville, un petit peu, le château, beaucoup. Donc ce qui fait qu'on va un peu plus voir la ville dans ces types de séries. On va trouver ça, excuse-moi, dans, alors la qualité d'image est atroce, mais c'est des séries des années 50, donc qu'est-ce qu'on peut. C'est ce qu'on va retrouver dans une série comme Ivanhoé, ou Thibaut ou les Croisades, à la fin des années 60, où on a des villes, on a le personnage ou les personnages qui déambulent un petit peu en ville. Mais vous voyez qu'à chaque fois, on a très peu de ce qu'on appelle de profondeur de champ. C'est-à-dire que là, ils sont à 2 mètres des piliers, des vagues de cahutes qu'on a représentées pour faire la ville, et c'est à peu près tout. Parce que représenter la ville, bah, c'est compliqué. Ça demande des espaces, ça demande de reconstituer plein de choses différentes, ce qui coûte donc très cher, et le tout pour voir passer les personnages 4 fois devant, c'est pas extrêmement rentable. Donc, on va représenter des petits points qui vont être réutilisés régulièrement, ce qui fait qu'on a l'impression d'être en ville, et en fait, on nous montre 3 mètres carrés. Donc on a ça dans Ivanhoé, on a ça dans Guillaume Tell, qui est une série qui est de la même époque. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans des séries plus récentes, mais qui sont des séries humoristiques, je mets un petit bémol, à partir du moment où ces séries commencent à avoir un petit peu plus de budget. Parce que généralement, une série médiévale, déjà, ça coûte cher. En plus, quand c'est humoristique, personne ne veut le produire, donc ils n'ont pas de budget. On prend la série Kaamelott, par exemple, série française que je pense vous connaissez au moins de nom. Si vous ne connaissez pas, allez regarder Kaamelott, c'est vachement mieux. Dans Kaamelott, toute la première saison, on est vraiment, c'est tourné en studio. On a vraiment des décors très restreints. À partir de la saison 2, ils ont un peu plus de budget, donc ils vont pouvoir mettre en scène des villes. Là, les images qu'on voit du marché, c'est des épisodes de la saison 2. Même principe dans une série, alors qui n'a pas été diffusée en France, mais vous pouvez trouver pas mal d'extraits sur Internet. Une série qui s'appelle Galavant, qui est une série... très bien, vous connaissez, c'est génial Galavant.
Génial.
Merci. Écoutez cette dame. Galavant, c'est une série humoristique et musicale. Alors, faut aimer, hein. Faut aimer les gens qui se mettent à chanter au milieu d'une phrase. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas été diffusé en France. Mais en fait, on voit une évolution aussi. Dans la première saison, on voit plutôt un village. Parce que bah, déjà ça coûte cher à produire. Et à partir de la saison 2, ils ont plus de budget. Donc, on va pouvoir mettre en scène une ville avec plus de monde, avec plus de décors, plus de déplacements, etc. Malgré tout, comme tout ça, ça coûte cher, on a des petites techniques, hein, vous voyez. On va avoir un plan au ras du sol, par exemple, pour éviter de trop voir les bâtiments trop modernes derrière. Ou alors, on a des plans en plongée, comme ici. Comme ça, ça nous permet de voir la foule plutôt que, encore une fois, les bâtiments. Donc, c'est des choses qu'on a régulièrement dans des séries, surtout donc formulaires, où on va pouvoir voir les personnages qui se déplacent un petit peu. Alors, ça c'est encore une série humoristique, anglaise cette fois, vous savez, pareil que je recommande, qui s'appelle Blackadder, la vipère noire en français. C'est une série où chaque saison est sur une époque différente. Donc il n'y a que la première saison qui est située au Moyen-Âge, mais vous voyez là les personnages, donc le personnage principal interprété par Rowan Atkinson, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Mr. Bean. Il n'a pas fait que ça, il a aussi fait Blackadder. Et il se balade un petit peu en ville, jusqu'à ce qu'on lui dise que c'est peut-être risqué, donc il va se déguiser, hein, en mettant simplement un bandeau sur lui. Mais vous voyez, ça ce sont par exemple des villageois. Ça fait rêver. Hein. Mais l'idée c'est vraiment de mettre les personnages au premier plan et d'avoir un vague décor derrière qui va donner l'impression que c'est la ville. tous les épisodes de la première saison de Blackadder sont visibles sur des plateformes vidéo. N'hésitez pas. Donc là où on va avoir en fait le plus de villes, ça va être toujours dans les séries humoristiques, mais celle où ça coûte rien de mettre en scène une ville, c'est dans les séries animées. On a effectivement des séries qui mettent en scène le Moyen-Âge et qui sont des séries animées. Alors soit avec du dessin animé, c'est le cas d'une série qui s'appelle Désenchantée, qui a commencé en 2019 et qui est diffusée sur Netflix. C'est une série créée par le Matt Groening, qui est le créateur des Simpsons, de Futurama. Voilà, donc c'est dans le même style. Mais ça se passe dans un Moyen-Âge de fantasy. Et on va là voir beaucoup les personnages se déplacer en ville. Parce que bah, ça coûte rien, puisque c'est du dessin. Donc on va pouvoir représenter plein de boutiques. En plus, le personnage principal est une princesse alcoolique, donc elle passe pas mal de temps dans les bars. Donc on va avoir tout ce décor-là. Et on va retrouver ça aussi dans une autre forme d'animation, qui est ce qu'on appelle l'animation en volume, avec des petits bonhommes pris en photo, si vous voulez, mis bout à bout. C'est ce qu'on a par exemple dans une série qui s'appelle Pigeons et Dragons. Je sais pas, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors c'est une série française, Cocorico, qui a été diffusée sur Arte, franco-allemande. Germano-français, je crois qu'on dit. C'est une série qui représente des petits, c'est des petits chevaliers en, je sais même pas ce que c'est du plastique ou du bois, mais ils bougent pas en fait dans les fins. On les fait se déplacer, mais ils ont pas d'expression, on voit pas leur visage. C'est vraiment des petits bonhommes qui évoluent comme ça. C'est extrêmement drôle, extrêmement décalé. Mais comme on est sur en fait des maquettes, pareil, là on va pouvoir représenter des choses. Vous voyez des décors de ville, une place de marché, des choses comme ça, de façon beaucoup plus régulière. À l'inverse, là j'ai beaucoup parlé de séries comiques ou de séries formulaires, à l'inverse, dans les séries dramatiques et les séries d'action, on va avoir très peu de villes dès lors qu'en fait on est dans ce qu'on appelle un format feuilletonnant. Alors feuilletonnant, c'est l'inverse du formulaire. Feuilletonnant, c'est sur le principe du feuilleton, c'est-à-dire que vous êtes obligé. Si vous voulez comprendre l'histoire, vous êtes obligé de regarder du début à la fin. Si vous essayez de suivre Game of Thrones en commençant par la saison 3 et en loupant un épisode sur deux, bon courage. Parce que déjà, en suivant tout, il y a beaucoup de personnages et c'est compliqué à suivre. Donc, c'est ce qu'on appelle des séries feuilletonnantes où l'intrigue est vraiment suivie. Mais dans ces séries-là, en fait, l'essentiel des décors, ça va être des grands espaces. Alors, soit des châteaux, des halles vikings, voilà, des choses qui en imposent un petit peu, bah oui, on est dans une série sérieuse. Quand même pas filmer les paysans qui sont en train de faire leur marché, ça n'a aucun sens. Soit on va avoir des grands espaces où on va voir les chevaliers ou les vikings ou ce que vous voulez, qui traversent voilà, des paysages de mer, des paysages de campagne, voilà, des grands espaces comme ça. Et en fait, ça c'est calqué de ce qu'on avait dans les romans de chevalerie à partir du XIIe siècle. Dans les romans de chevalerie, le personnage principal, c'est forcément un chevalier, un héros, un homme, au passage, bien sûr. Mais on va avoir à chaque fois le même schéma. Ça commence dans un château, et le personnage va avoir une information ou autre qui va l'emmener à l'aventure en dehors du château. Le principe pour un chevalier, c'est que l'aventure ne se rencontre qu'en dehors de son espace familier. Donc on va avoir cet espace de château imposant, et après toute l'aventure, avec les forêts, avec la mer, avec tous ces éléments-là. Et les séries longues, les séries feuilletonnantes vont reproduire davantage ça. Ce qui fait que quand on a des villes dans ces séries, c'est très rarement dans des cas de siège, par exemple. Alors, des scènes de siège, dans l'histoire, on en a. C'est long, un siège, c'est ennuyeux. Hein, ça peut durer des mois, voire des années. Tout le principe, c'est qu'on attend face aux remparts et on bloque une ville. Je vous cache pas que dans une série, c'est pas fascinant à mettre en scène parce qu'il se passe rien. Donc quand on met en scène un siège, on va représenter en fait l'assaut final, éventuellement avec des boules de feu. Non, ça n'a rien d'historique, donc pourquoi? Mais on va avoir ça dans une série comme Nightfall, ou dans une série comme Marco Polo, par exemple. Quand on a un siège, on va voir en fait l'attaque de la citadelle avec des boules de feu. Ne faites pas ça chez vous, c'est d'un point de vue stratégique, c'est très bête. De façon générale, n'attaquez pas les gens avec des boules de feu, c'est pas gentil. Mais donc, les villes, en fait, vont être très rarement représentées, et quand elles vont être représentées, ça va se limiter à quelques lieux un peu emblématiques. Ce qu'on va avoir pas mal, c'est le marché, forcément. Alors, encore une série animée tirée d'un manga qui s'appelle King Arthur, et une série américaine qui s'appelle Miracle Workers,
C'est un peu comme Blackadder, au sens où c'est une comédie où chaque saison a un thème et une époque différente. Là, c'est la saison 2 qui se passe au Moyen-Âge. Oui, 2. Et où on va, voilà, ça c'est une des toutes premières images de la série où on a ce contexte urbain qui va être mis en scène. Donc vous voyez, on a des passages un peu obligés comme le marché. Parce que l'avantage du marché, c'est que ça permet de montrer beaucoup de choses en très peu de temps. Voilà, en quelques images. Ça, c'est des images de la série Cursed, la rebelle. Pareil, une seule saison sur Netflix, ça n'a pas marché, pour plein de raisons. Mais on voit les deux personnages, les deux jeunes filles, qui ont échappé à leur petit village, elles se sont échappées pour la journée, et elles viennent en ville découvrir un petit peu tout ça, parce que leur but, c'est de partir. Et elles vont être fascinées par la découverte du marché. Donc on va voir des tissus, on va voir des gens qui préparent du cuir, on a vu du pain, voilà, on peut voir plein d'étapes qui donnent une espèce de microcosme du Moyen-Âge. Au passage, au Moyen-Âge, vous n'auriez pas trouvé un marché avec du pain, du tissu et du cuir, ça n'a aucun sens non plus, mais ça fait bien. Et ça, voilà, on a l'impression de découvrir avec elles, on a cet émerveillement avec les personnages. En plus, on a des plans qui nous donnent comme si on allait découvrir les odeurs du pain aussi. Là, on a la musique des jongleurs, musiciens, dont elle va tomber amoureuse forcément. Voilà. Je spoil, mais en même temps, celui qui chante, c'est Arthur. Donc forcément, vous vous doutez bien, quand on s'appelle Arthur dans une série médiévale, on est le héros. Mais donc, le marché, ça va être une scène emblématique. Alors, j'ai évoqué le marché. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre comme endroit important dans une ville? C'est moins drôle. Fortification. Alors, voilà, dans Kaamelott, où est-ce qu'ils passent tout leur temps, Perceval et Caradoc? À la taverne. Effectivement, si on a des éléments de la ville, ça va être la taverne. Parce que la taverne, c'est l'endroit où on discute, où on boit, bien sûr. Donc il peut se passer plein de choses. C'est l'endroit où on échafaude des plans. C'est ce qu'on voit ici. Dans... Alors, c'est une série qui vous dit peut-être quelque chose. Thierry Lafonde. 10 points pour Gryffondor. Très bien. Effectivement, hein, Thierry Lafonde, une des premières séries, la première série médiévaliste française, où on va régulièrement avoir des scènes dans la taverne, parce que c'est le moment où on établit tout le plan de bataille, où on discute d'un tel qui a été enlevé, des Anglais qui ont fait une incursion à tel endroit, etc. Mais vous voyez qu'en fait, cette taverne, elle a un côté ancien, parce qu'on va faire des murs décrépits. Bon, noir et blanc, c'était pas génial, mais... voilà, on a des murs un peu décrépits, on a des éléments qui nous donnent l'impression que c'est vieux. Sauf que eux, ils sont censés être au Moyen-Âge. Ils l'ont construit il y a 5 minutes, la taverne. Donc il n'y a pas de raison que ça soit décrépit comme ça. Mais en fait, on va prendre un décor qui fait plus fin 18e, début 19e. On va mettre tout ça avec des costumes qui n'ont rien d'historique non plus. Hein, mais bon, Thierry Lafonde en collant, c'est quand même un monument. Donc, ça donne une impression de quelque chose d'ancien. Donc le marché, la taverne, et ben, c'est à peu près tout, en fait. Parce que tout le reste, ça a tendance à disparaître. On a très peu de boutiques, par exemple. On va en avoir un petit peu plus dans les séries animées, comme justement Désenchanté, où là, on va avoir plein de choses assez différentes, mais parce que ça ne coûte rien à reproduire. Sinon, ça demande des accessoires, ça demande plein de choses. Et puis pour une scène, c'est vraiment pas rentable. Donc les séries évitent complètement. Donc on a très peu de boutiques, très peu de magasins. Et ce qu'on a très peu aussi, c'est les pauvres. Voilà, de façon générale, tout ce qui est quartier périphérique, tout ce qui est quartier populaire, ça n'existe pas. Voilà, les séries médiévalistes sont centrées sur la noblesse, les chevaliers, les rois, les chefs vikings, les sous-voulés, hein, les 1% du Moyen-Âge, et les 99% de la population disparaissent, globalement. Donc on a quelques quartiers dans Game of Thrones, par exemple, où on voit vraiment le quartier le plus populaire, qui s'appelle Cupucier, déjà, hein, c'est éloquent dans le nom, et j'avais eu un espoir, parce que dans toutes les séries dérivées qui sont en train de créer sur Game of Thrones, ils avaient envisagé une série justement sur ce quartier. Une série où on aurait été vraiment sur les personnages les plus humbles de la ville. Et puis la série a été annulée. Donc voilà. Donc il n'y aura pas ça, mais on aura toujours beaucoup de rois et de chevaliers. De façon générale, hein, les classes les plus humbles disparaissent de ces programmes. Donc voilà, très rapidement pour conclure et vous laisser un petit peu la parole. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au Moyen-Âge, la ville, c'est un espace qu'on découvre avec les personnages, avec ce côté émerveillement, où on va découvrir aussi des choses. C'est un espace où on dialogue, c'est un espace où bah, on boit, hein, soyons honnêtes, parce qu'on a quand même pas mal de tavernes.
Mais surtout, en fait, ça va être un espace où on passe. Voilà. Les personnages sont de passage, mais ils ne vont pas s'attarder là parce que l'aventure les appelle en dehors. Alors, bon, j'avais appelé ma communication quand on arrive en ville, déjà parce que je venais de voir Sarmania, donc forcément. Mais en fait, j'aurais dû l'appeler quand on part de la ville parce que c'est plus ça. Et en même temps, je pense que ça aurait été moins accrocheur. Donc, voilà. Donc, en attendant d'aller en ville, vous avez malgré tout plein de beaux paysages et plein de belles aventures à découvrir dans les séries médiévalistes. Et ça, déjà, c'est pas mal. Merci de votre attention.
On a le temps pour la discussion, des questions, des échanges, des remarques, des choses qui vous ont frappé, vous aussi, sur la représentation de la ville, ce que vous auriez voulu aimer. Voilà.
Bonjour, merci déjà. Et qu'est-ce des lieux religieux en fait?
Alors, j'allais dire, il y en a plein, et en fait, non. Alors, des lieux religieux, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Dans les séries médiévalistes, il y a une religion. Je vais être honnête. Techniquement, parfois, on évoque des religions, quelque chose de polythéisme. Mais en fait, quand on a l'idée d'une religion institutionnalisée ou des personnages qui prient ou qui vont dans des lieux religieux, des édifices religieux, c'est toujours des chrétiens. Donc on va avoir une grosse représentation de l'Église, l'Église en tant qu'institution, avec des choses très stéréotypées. C'est-à-dire que si vous représentez un moine ou un prêtre très humble, voilà, très bas dans la hiérarchie, c'est forcément un personnage positif. Voilà, c'est le frère Tuck, voilà, le bon vivant qui fait de la bière et qui respecte pas trop ses vœux. Et plus vous vous élevez dans la hiérarchie religieuse, plus vous êtes un évêque ou un pape, chose comme ça, plus vous êtes forcément maléfique, corrompu et toutes les pires choses du monde. C'est de la fiction, bien entendu. Donc, mais on a voilà, ces représentations-là, et ce qui fait qu'on va avoir de temps en temps même des églises qui apparaissent. Alors, soit centrées sur elles-mêmes, je pense à une série comme Les Piliers de la Terre, adaptée des romans de Ken Follett, qui est vraiment pas mal, et qui est sur la construction d'une cathédrale, justement. Donc là, on met en scène des artisans, on a tout ce travail. Un des soucis, c'est que ben, on va représenter les cathédrales comme on les représente aujourd'hui, c'est-à-dire avec la pierre nue, très solennel, hein, je ne vais pas critiquer les cathédrales, c'est magnifique, mais c'est pas du tout comme ça les églises et les cathédrales au Moyen-Âge. C'est bariolé de couleurs. Si vous avez déjà vu des spectacles, vous savez, où ils projettent des couleurs sur les façades des cathédrales, faut imaginer que au Moyen-Âge, l'intérieur est comme ça aussi en fait. Alors aujourd'hui, ça nous attaquerait un petit peu la rétine, hein, je pense, mais il y a des couleurs partout, il n'y a pas que les vitraux, c'est comme ça partout. Et ça, c'est très rare de retrouver dans les représentations. Et alors, de temps en temps, on a un personnage musulman. Voilà, mais c'est vraiment de temps en temps. On en a dans The Bastard Executioner, par exemple, il y a un musulman qu'on force à se convertir, mais ça ne marche pas, comme à chaque fois qu'on force quelqu'un à se convertir. Mais c'est à peu près tout. Et par contre, on va avoir de temps en temps, et surtout dans les séries sur les Vikings, par exemple, ou autour des Vikings, une confrontation entre la religion institutionnalisée chrétienne, ou d'inspiration chrétienne, hein, dans Curse la Rebelle, par exemple, on parle pas de chrétien, mais c'est tout comme, on reprend tous les codes, et ça va s'opposer au polythéisme païen, inspiré de diverses religions celtes, qui va avoir tendance à être un petit peu animiste. On a un genre de gloubi-boulga religieux, hein, généralement, quand on représente les païens, pour dire que ce sont des gens plus proches de la nature et généralement beaucoup plus tolérants. Donc on a cette opposition où on va avoir, voilà, en gros, les chrétiens, si c'est une religion institutionnalisée, ils vont vouloir convertir les autres, c'est mal, alors que les païens sont beaucoup plus tolérants et généralement ça se passe mieux avec des nuances. Parce que si vous regardez la série Vikings, par exemple, Vikings, c'est l'idée générale, parce qu'on est quand même censé être du côté des Vikings, mais c'est tellement long que vous avez tellement de nuances pour voir que bah, c'est pas parce qu'on est d'une religion ou d'une autre qu'on est forcément gentil ou méchant. Voilà. Quelques édifices religieux. Mais les producteurs ont généralement du mal à trop mettre en avant ça, parce que généralement ils pensent que ça fait peur au public si on a trop de discours religieux et des choses comme ça.
Ouais, merci. Donc, moi, du coup, j'avais peut-être deux questions qui sont un peu liées.
Il y a l'aspect comme parler de la partie pauvre, du coup. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des récits du coup, justement, où on part des quartiers pauvres qui émergent des plans pour pouvoir grandir ou évoluer ou partir à l'aventure, du coup, et comment ça se passe, du coup? Parce que c'est pareil, ils sont dans la taverne, mais du coup, ça pourrait être un peu irréaliste, du coup. Oui, c'est justement le cliché de la taverne, parce que c'est plus facile à scénariser. Et puis, peut-être l'autre aspect, du coup, c'est un peu la ligne capitaine, du coup. Il y a quelques commentaires, du coup, sur les autres civilisations, je pense, par exemple, du coup, à la partie asiatique, peut-être, ou la partie samouraï, qui pourrait aussi émerger, aussi par un côté religieux, aussi, qui est peut-être différent, aussi, qui pourrait être relaté, du coup, à tous ces éléments-là.
Alors, beaucoup de choses dans cette question. Sur la première partie, sur la question des personnages les plus humbles, voilà, des figures populaires qui vont s'élever petit à petit dans la hiérarchie, etc., et qui vont donc être au premier plan de la narration, on en a, notamment dans tout ce qui est série autour du roi Arthur, parce qu'il y a notamment toute une branche de la littérature arthurienne qui fait du personnage d'Arthur lui-même un roi, une figure noble, d'origine noble, mais qui ne connaît pas son origine et qui est élevé par quelqu'un de beaucoup plus humble. Ce qui va permettre à Arthur, puisqu'il a grandi avec le peuple, d'être familiarisé avec la condition du peuple et d'être après un roi fabuleux. Bon, c'est une interprétation, de toute façon, c'est un personnage de fiction, donc on en fait ce qu'on veut. Alors oui, je dis tout de suite, le roi Arthur n'a pas existé. Désolée, on parlera du Père Noël une autre fois, mais ce qui fait qu'on en fait ce qu'on veut, hein, de toute façon. Mais effectivement, à partir du XXe siècle, on va avoir tendance à représenter... J'ai brisé des illusions. Pardon. Voilà. Je vais partir. Mais du coup, voilà, on a tendance à représenter, notamment sur le modèle du rêve américain, en fait. Parce que c'est ce qu'on a beaucoup retrouvé dans les films et dans les séries qui viennent des États-Unis, l'idée qu'on peut partir du plus bas de la société et s'élever pour devenir chevalier ou roi. Dans les faits, au Moyen-Âge, ça aurait été compliqué, je ne vous cache pas. De ça, parce qu'il faut pouvoir payer tout cet équipement et qu'un cheval et tout le reste, ça coûte très cher. Donc, il y a ces éléments-là. On en retrouve un petit peu hein, dans Nightfall, on a un cas comme ça de personnage qui va devenir templier pour se venger. Simplement, sa fiancée a été tuée, il était un simple paysan. Mais, bon, je spoil, désolé, la série n'est pas géniale. Mais bon. Mais en fait, globalement, à partir du moment où il devient templier, il va essayer d'agir sur cette vengeance et il meurt genre tout de suite après. Voilà. Donc là, on a un cas fabuleux, il s'appelle Perceval en plus, donc on se dit, dans Nightfall, c'est une histoire de templier qui cherche le Graal, on a un personnage qui s'appelle Perceval, il va être important. Pas du tout. Voilà. Donc l'ascension sociale, là, elle est brisée, donc c'est assez intéressant. On a quelques cas comme ça. Dans Camelot, ils ont fait un petit peu l'inverse, au sens où on nous présente des chevaliers. Et après, on va nous présenter leur parcours, on va nous dire, bah en fait, dans ces chevaliers, il y en a 3 ou 4 qui viennent du peuple. Voilà. Et dans la saison 6, on découvre, par exemple, l'origine de Perceval, qui vit dans une espèce de grange avec ses parents et sa grand-mère, ils élèvent des chèvres, c'est vraiment très, très humble. Et Perceval, on sait qu'après, hein, ça fait partie des chevaliers de la table ronde, j'allais dire les plus importants, il y aurait trop de choses à dire. Les plus mis en avant dans la série Camelot, en tout cas, et important pour la suite de l'histoire aussi. Donc voilà, donc on a quelques cas. Après, c'est toujours des éléments ponctuels, parce que on voit bien que c'est pas la norme, en fait. Voilà, donc même dans les séries comme ça, on a ça. Et après, sur la question des séries asiatiques ou de ce qui est représenté sur l'Asie, alors, il y en a, mais que j'ai beaucoup moins étudié, donc je vais pas vous dire de bêtises. Après, la difficulté, si on veut, c'est que on peut pas vraiment, enfin pas vraiment, c'est un autre type de Moyen-Âge, puisque c'est pas, voilà, l'époque des samouraïs, en fait, ça correspond pas exactement au Moyen-Âge, c'est beaucoup plus long aussi. Alors, le Moyen-Âge, c'est déjà 1000 ans, hein, je sais bien, mais les samouraïs, c'est encore plus large. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres codes historiques et culturels qui font que ces questions, soit de religion, soit même d'ascension sociale, sont pas forcément traités de la même façon. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que je veux pas vous dire de bêtises. Tout simplement.
D'autres questions?
Oui. J'en profite pour vous conseiller la série Kingdom, qui est une série coréenne qui se passe au Moyen-Âge avec des zombies.
Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle différence
Voilà, c'est fait.
Une réelle différence entre le traitement de la ville au Moyen-Âge, entre les séries et le cinéma.
Oui, excellente question. J'y ai pensé tout seul. Merci. Non, mais effectivement, oui, assez parce que on n'a pas les mêmes enjeux et très souvent on n'a pas les mêmes budgets. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup plus de villes dans les films médiévalistes, mais on va quand même avoir généralement plus de moyens pour mettre en scène ça, quitte à réutiliser des décors pour différents films ou des choses comme ça. Donc on va en avoir un petit peu plus, que ce soit des villes, on va dire, de l'Europe de l'Ouest, voilà, sur des films qui se passent en Angleterre, qui sont censés se passer en Angleterre, on a pas mal de choses qui vont être représentées, généralement tournées en Belgique, mais voilà, parce que ça coûte moins cher. Et aussi après, quand on a des films sur les croisades, où là aussi on va avoir des villes, cette fois généralement Jérusalem, ou des villes cette fois du Moyen-Orient, donc avec pas les mêmes codes du tout, mais où on va les voir beaucoup plus apparaître, parce que justement on est dans des récits épiques qui vont permettre beaucoup plus de déplacements, beaucoup plus de décors différents. Dans une série, on a généralement moins de budget, et les récits qui sont racontés ne sont pas les mêmes. Dans les séries, on va avoir beaucoup plus tendance à se focaliser sur sur l'humain, sur le personnel, sur l'intime, alors qu'au cinéma, on va avoir tendance à se focaliser sur les grands événements ou les grandes figures. Encore une fois, ce n'est pas une règle absolue, mais traditionnellement, c'est comme ça. Un grand spectacle, pour un grand écran, et tout ce qui est sur l'intime, le personnel, ça peut être sur un roi, mais ça va être plus sur ses... ses déboires internes et sa propre souffrance. Voilà, là, ça va être sur une série. Donc ça influe aussi sur la représentation des villes. Comme quoi, c'est une bonne porte d'entrée.
J'avais, deux questions par là. Je note...
Bonjour, et merci pour la présentation. Alors, je voudrais revenir dire sur les villes et les personnages aussi. Qu'en est-il des villes de l'Orient, notamment surtout des villes comme Bagdad, etc. C'est des villes qui, à un certain moment, c'était des modèles. Et des grands personnages aussi, comme Saladin, par exemple. Et merci.
Alors, effectivement, et c'est des villes qui sont tellement importantes que très souvent dans les séries, elles sont évoquées quand on est sur des personnages. Alors, bien sûr, quand on parle des croisades, malheureusement, même s'ils n'en parlent pas toujours en bien, mais je pensais à une série comme The Bastard Executioner qui est sur un. Je ne sais plus dans quel ordre. Je crois qu'il est chevalier, puis il devient paysan, puis après il devient bourreau, dans cet ordre-là. Il y a trois vies en 5 minutes, mais bon. Et on a des personnages qui ont beaucoup voyagé et qui racontent. Mais en fait, très souvent, on parle de ces villes sans les représenter, parce que justement, ça demande d'autres décors et d'autres budgets aussi. Voilà. Alors, par contre, on va avoir une série, pareil, que je vous recommande plein de séries, en fait, mais une série qui s'appelle Omar, sur le tout début du sur le tout début de l'islam. Et c'est une série qui est en plus qui propose des astuces de tournage assez intéressantes pour ne pas représenter le prophète. Enfin, c'est très très bien fait. Ça a été diffusé pendant Ramadan, je ne vais plus savoir l'année, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais la série donc Omar se passe effectivement dans différentes villes du Moyen-Orient. Et là, on va avoir justement les déplacements, on va avoir des décors, etc. Mais ils n'ont pas trop insisté sur la magnificence et sur la grandeur même culturelle de ces villes, parce que leur discours s'intéresse beaucoup plus à la pensée théorique et au développement des premiers concepts de l'islam. Donc c'est une série qui parle beaucoup, qui montre assez peu, mais qui est déjà une première étape dans tout ça. Et c'est dommage parce que ça manque, hein, ces séries-là. Le Moyen-Âge dans les séries, dans les films, c'est très la France et l'Angleterre. Et encore, j'inclus la France parce que je suis française, hein, mais c'est beaucoup l'Angleterre.
Il y avait d'autres questions, je ne sais plus. Toutes les mains ici.
Bonjour. Vous avez évoqué la taverne, vous avez évoqué les marchés, on a évoqué dans les questions les lieux religieux. Et je me posais la question des lieux de justice et aussi d'un lieu apparenté à la ville, à la sortie des villes, les cimetières.
Oui.
Qui sont quand même liés à la ville. Est-ce qu'il y a une évolution particulière ?
Alors, c'est intéressant parce que les lieux de justice et les cimetières, je ne vais pas dire disparaissent complètement, parce qu'il y a peut-être un ou deux exemples qui m'échappent. Sur 70 ans de série et plus de 80 séries, ça ne serait pas impossible, hein, je ne vous cache pas. Mais c'est très rare, en fait. Quand on a des scènes de justice, parce qu'on a hein, des scènes de tribunal ou des choses comme ça, ça va être soit fait dans une halle viking, ou dans, donc là ça peut avoir un sens aussi, dans une salle du trône, ce qui a beaucoup moins de sens, d'un point de vue historique. Mais bon, quand on est dans des séries avec des dragons, on s'en fiche de faire historique de toute façon, c'est pas le but. Ou alors sur des estrades qui vont être créées sur la place publique. Et généralement, c'est l'estrade qui va servir au jugement et à l'exécution dans la foulée. Autant vous dire que quand vous passez en jugement et que le bûcher est déjà prêt, vous n'avez pas l'impression d'être de toute façon hyper juste. Mais donc, on va créer en fait des espaces pour l'occasion, parce qu'on a l'idée que ce sont des représentations en fait, populaires, après c'est un divertissement populaire la mise en scène de la justice en fait. Ce qui permet généralement hein, d'influer aussi sur le verdict. On a ça dans Les Piliers de la Terre notamment. Alors je ne dévoile pas parce que c'est un peu l'aboutissement, une partie de l'aboutissement de la série. Mais on a un procès important et où on va pouvoir avoir les gens du public qui interviennent et qui font varier le verdict. Je vous laisserai savoir si c'est bon ou pas. Mais voilà, vous allez voir la scène. Mais donc, voilà. Et les cimetières ont tendance à disparaître, sauf dans un cas précis qui est la série Catfell. Catfell, c'est une série anglaise adaptée de romans de Ellis Peters. C'est sur un moine qui mène des enquêtes. Alors c'est un peu le même principe que Colombo, bon, on n'a pas le coupable dès le début, mais c'est le moine qui va mener à chaque fois son enquête. Vous pouvez globalement regarder les épisodes dans le désordre, c'est pas trop grave. C'est un moine qui, en fait, était un ancien croisé, il en avait marre de la guerre, globalement, et il est devenu moine, et donc il résout des enquêtes à chaque fois. Donc on a quelques scènes dans les cimetières, parce qu'il va venir inspecter certains cadavres, en fait. Donc soit avant qu'ils soient enterrés, soit après. Mais c'est à peu près les seuls cas où on va avoir des cimetières, sinon ça fait partie des espaces qui n'existent plus. Je vous conseille au passage, à l'inverse, un roman qui s'appelle « Je, François Villon » de Jean Tellet, qui raconte, qui romance la vie du poète François Villon. Et là, on a beaucoup de choses dans les cimetières. Par contre, c'est à lire avec quand vous avez l'estomac bien accroché. Hein. Je ne les ai pas ça en prenant votre petit déjeuner.
Quelqu'un d'autre? Bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir, dans ce que vous avez pu étudier, qu'est-ce qu'on détruit dans la ville et qu'est-ce qu'on construit dans la ville? Vous nous avez montré tout à l'heure le siège avec le feu. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on représente la construction de la ville ou la destruction au-delà du siège?
Très peu, parce que tout ce qui est changement, donc destruction ou construction, ça va demander, bah encore une fois, beaucoup de budget, parce que ça demande des machines et ça demande de mettre en scène des choses assez complexes, qui généralement sont là simplement pour faire un décor. Donc encore une fois, ça ne vaut pas le coup, c'est pas rentable, donc on ne représente pas. On ne représente pas, sauf dans les piliers de la terre, parce que justement, c'est centré sur la construction d'une cathédrale. Et là où on a des passages, ça se passe en fait sur plusieurs dizaines d'années. Donc là on a par fragments, et puis on a aussi les enjeux de la construction parce qu'il y a des accidents, il y a des choses comme ça. Mais c'est vraiment un cas exceptionnel dans tout le panorama des séries occidentales qu'on a. On a quelques éléments qui sont évoqués, que ce soit dans Thierry Lafronde, ou dans la série, alors je ne sais plus si c'est Guillaume Tell ou Robin des Bois, ces deux séries qui s'appellent The Adventures of Robin Hood et The Adventures of William Tell, et qui sont créées à 3-4 ans d'écart, voilà. Des deux séries britanniques. Et je sais qu'il y a au moins deux épisodes qui évoquent alors, des destructions, mais notamment par des incendies. Incendies généralement volontaires, quand c'est comme ça, parce qu'il y a une famille qui vient de. Famille étrangère qui vient d'arriver dans le village, et là il y a des attaques ou des choses comme ça, mais c'est encore une fois plus centré sur pas tant les dégâts matériels et tous ces éléments urbains de l'architecture, mais plus sur ce que ça implique pour l'inclusion de la famille et la non-inclusion. Et bien sûr, le héros va intervenir pour faire accepter cette nouvelle famille. Ça finit toujours bien. Donc, très peu de changements. De façon générale, de la parole juste après, de façon générale, on a l'idée que le Moyen-Âge ne bouge pas. On a souvent la représentation que le Moyen-Âge, c'est 1000 ans, où il ne s'est rien passé. 1000 ans où la culture, l'architecture, rien n'a évolué, les institutions. Bon, c'est quand même 1000 ans d'histoire, hein, donc on est en 2023. Je vous laisse imaginer comment les gens vivaient en 1023, il y a 1000 ans. Et demandez-vous si c'est tout à fait la même chose. Bah, déjà, j'aurais pas eu la parole. C'est un problème.
Je voulais savoir si, hormis l'aspect esthétique, est-ce qu'il y a des grandes différences entre les villes fantasmées et les villes historiques ?
Oui. Mis à part l'aspect esthétique, on a beaucoup moins dans les villes qui sont représentées. Alors d'ailleurs, que ce soit dans des séries de fantasy, avec de la magie, des choses comme ça, ou des séries qui se veulent plus historiques, je pense par exemple à la série Viking, qui a utilisé des consultants historiques, etc. Bon, ils squeezent quand même 300 ans d'histoire en 5 minutes, hein, mais il y a quand même une volonté derrière. On a, donc c'est à peu près la même chose dans ces deux cas-là. Où est-ce que je partais avec ma phrase ?
Il y a beaucoup de différences.
Il y a beaucoup de différences. Oui. Rappelez-moi votre question. Oui, c'est ça, merci. Désolée, je sens la chaleur dans un coup. Une des grosses différences qu'on a, c'est que dans les représentations des villes, on n'a pas la répartition en quartiers. Alors, je parlais des quartiers populaires, donc ça on a un petit peu, mais dans les villes, les grandes villes notamment, au Moyen-Âge, Paris, Londres, Lyon, etc., Provins, on a un quartier des boulangers, on a un quartier des bouchers, on a un quartier des tanneurs. Alors, au passage, vous imaginez le quartier des bouchers ou le quartier des tanneurs, l'odeur quand vous passez dans la rue, ou le quartier des poissonniers, c'est assez particulier, hein. Mais on avait comme ça des regroupements par corporation, en fait. Et ça, c'est jamais... en tout cas, j'ai pas d'exemple, c'est très très rare. On l'évoque parfois, mais c'est pas mis en scène parce que, justement, bah, encore une fois, c'est pas rentable. Ça vaut pas le coup de représenter 15 boulangeries côte à côte, 15 étals de pain. Parce que bah, ce qu'on veut, c'est pouvoir montrer toute la variété, faire du spectacle aussi. Donc on va avoir voilà, des choses plus variées comme dans Curse. Ouais.
Dans les séries avec des villes
on en a tellement peu que c'est difficile de les comparer. Après, on va avoir dans. De toute façon, quand on a des représentations de villes, très souvent, même au niveau de l'architecture, c'est très peu des villes médiévales. C'est beaucoup des villes début de l'époque moderne, voire du 19e siècle. Voilà. Où on a un espèce de gros mélange historique, mais encore une fois, vu que c'est un simple décor devant lequel on passe, on ne s'attarde pas et ça énerve que trois historiens et demi qui disent « Ouais, mais les gouttières, elles ne sont pas d'époque !» Forcément. On ne va pas déconstruire la maison du monsieur pour 5 minutes de tournage.
Justement,
la question
qui est vachement intéressante, c'est qu'à mon avis, il n'y en a pas beaucoup de différences pour une raison comme ça, le budget.
Ben,
on sait pertinemment que dans les séries historiques, on est plus sur du documentaire que vraiment une série documentaire.
Et encore, oui.
Donc, quand il y a un historien qui va intervenir pour donner une idée de ce que ça devrait être, qui n'est jamais écouté, pour vraiment penser le cas, je pense qu'on fait la perle. Et deuxième point, toujours sur le budget, les costumes sont réutilisés.
Oui, et ça, beaucoup varie, effectivement. Oui.
Et moi, le costume, c'est vraiment mon domaine. Donc, le médiévalisme à ce niveau-là, je me rends compte vraiment du problème d'inspiration réelle. Donc, souvent, dans une série fantasy, elle sera historiquement. Parce qu'en fait, dans les deux cas, nous sommes dans le médiévalisme.
Dans les costumes.
Dans les costumes, en tout cas. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, la frontière devient très élevée, en fait.
Alors oui.
Pareil, et quand on a la Chita, et pareil, c'est un petit peu. Voilà. Et c'est bien le problème, en fait.
Après, dans Camelot, il y a une grosse évolution entre la première saison et la saison 6.
La différence de budget monumentale, ça c'est bien.
Et le film. Non, on va pas parler du film. Non. On n'a pas le temps. C'est
le problème, il y a vraiment la recommandation du producteur. en premier lieu, et ensuite les équipes du film. Parce que moi, je travaille ici avec le cinéma et je me rends compte de la complexité de faire comprendre. Ah oui. Avant, tu poses aussi la très bonne question sur la visibilité. Imagine simplement faire rentrer dans la tête d'un spectateur que le personnage qu'on va suivre depuis qu'il est né, il croit en Dieu et il prépare sa mort. Parce que tous les jours, il va faire ça.
C'est un autre système de pensée, effectivement.
Mais non, même quand il est riche.
Et après, il y a le problème inverse des représentations, c'est qu'on parlait des églises et de la couleur partout. Il y a l'idée que si on représente ça aujourd'hui, si on représente une cathédrale avec du rouge, du bleu, du vert partout au milieu, ça ne va pas faire sérieux et les gens vont croire que c'est faux. En fait, on a tellement répété des images fausses sur plein de domaines qu'on a tendance, le grand public, et moi la première, hein, j'ai grandi avec tous ces films, hein, je ne suis pas née médiéviste, hein, clairement. J'ai grandi avec Camelot, des choses comme ça. On a tellement ces représentations qu'on finit par les croire. Ce qui fait que quand on représente autre chose, bah, ça peut déstabiliser, voire ça peut aliéner le spectateur. Et bah, encore une fois, on ne fait pas un documentaire. Donc si le but c'est de perdre des spectateurs. Ça leur irait bien en plus. Mais toutes blanches, effectivement. Ah mais c'est ça, il n'y a pas que le Moyen-Âge qui souffre hein, dans ses représentations. Enfin, voilà. L'Antiquité aussi, même combat.
Donc, je vous propose d'applaudir Justine Breton. Si vous voulez continuer à la question...
ActuSF. Les podcasts.